Chapitre 50. 20 décembre, quatrième dimanche de l'Avent, le matin. La neige tombe dru. Des congères se sont formées aux abords des terminaux de l'aéroport d'Arlanda. Les chasse-neige balaient les pistes d'atterrissage en d'incessants allers-retours. Eric se tient près de la grande vitre et regarde le tapis qui transporte les bagages jusqu'à l'intérieur d'un gros avion coloré. Simone arrive avec du café, une assiette de petits pains au safran et des biscuits au gingembre. Elle pose les deux tasses de café devant Eric, puis hoche la tête en direction de la baie vitrée qui donne sur les pistes. Ils observent une colonne d'hôtesses de l'air qui monte dans un avion. Elles portent toutes des bonnets de Père Noël et semblent excessivement contrariées par la neige fondue sous leurs pieds. Sur le rebord de la fenêtre du café, un Père Noël mécanique remue les hanches en rythme. Les piles semblent usées. Les mouvements deviennent de plus en plus spasmodiques, saccadés. Eric croise le regard de Simone. Elle hausse les sourcils d'un air ironique au spectacle des coups de rein du Père Noël. « Ils nous ont offert les petits pains, » dit-elle en fixant le vide. Puis elle se souvient. Quatrième dimanche de l'Avent. C'est le quatrième dimanche de l'Avent aujourd'hui. Ils se regardent sans savoir quoi dire. Soudain, Simone frémit et paraît tourmentée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Eric. « La solution injectable, » dit-elle d'une voix stridente. « On a oublié. S'il est là, s'il est en vie... »«
Simone, je... »«
Il s'est passé trop de temps. Il ne va pas pouvoir tenir debout. »«
Simone, je l'ai, » dit Eric. « Je l'ai prise avec moi. »
Elle le regarde avec des yeux rouges.
« C'est vrai. »
Kenneth m'y a fait penser. Il m'a téléphoné de l'hôpital.
Simone repense au moment où elle a ramené Kenneth chez lui, l'a vu sortir de la voiture puis tomber tête la première dans la neige boueuse. Elle avait cru qu'il avait trébuché, mais quand elle s'était précipitée dehors pour le relever, il était presque inerte. Elle l'avait conduit à l'hôpital où on l'avait emporté sur un brancard. Ses réflexes étaient faibles et ses pupilles réagissaient lentement. Le médecin pensait qu'il s'agissait d'une combinaison des répercussions de sa commotion cérébrale et d'un surmenage excessif.
« Comment va-t-il ? » demande Eric.
« Il dormait hier quand j'y suis allé, mais le docteur ne semble pas juger son état très préoccupant. »«
Bien, » dit Eric, qui regarde le Père Noël mécanique avant de prendre la serviette rouge de Noël pour le recouvrir.
La serviette se met à se balancer en rythme en avant, en arrière, comme un fantôme. Simone éclate de rire. Des miettes de biscuits au gingembre aspergent le manteau d'Eric.
« Pardon, » gémit-elle. Mais ça a l'air tellement tordu. Un Père Noël assoiffé de sexe.
Elle est prise d'un nouveau fou rire et se plie en deux sur la table. Puis, le rire se transforme en larmes. Au bout d'un moment, elle se calme, se mouche, s'essuie le visage et se remet à boire son café. Sa bouche se tord de nouveau à l'instant où Yonalina les rejoint à la table.
La police du Méo est déjà en route, dit-il sans détour.
« Vous êtes en contact radio avec eux ?» demande aussitôt Eric.
« Pas moi, mais eux sont en contact avec... »
Yona s'arrête net en apercevant la serviette posée sur le Père Noël dansant. Une paire de bottes brunes en plastique dépasse de la bordure de la serviette. Simone détourne la tête, son corps se met à se secouer de rire ou de pleurs ou d'un mélange des deux. On dirait qu'elle est en train de s'étouffer. Eric se lève rapidement et la tire de là.
« Lâche-moi !»
dit-elle entre deux convulsions. « Je veux simplement t'aider, Simone. Allez, on sort. »
Ils ouvrent la porte sur un balcon et prennent un peu d'air frais.
« Ça va mieux maintenant. Merci, »
chuchote-t-elle.
Eric balaie la neige de la balustrade et pose un de ses poignets contre le métal froid.
« Bientôt, ça ira mieux, » répète-t-elle. « Bientôt. »
Elle ferme les yeux et vacille. Eric la rattrape. Il voit Yona les chercher du regard à l'intérieur du café.
« Simone, comment te sens-tu ? »
Elle le regarde dans les yeux.
« Personne ne me croit quand je dis que je suis fatiguée. »«
Je suis fatiguée aussi et je te crois. »«
Mais toi, tu as tes médicaments, pas vrai ?»«
Oui, »
répond-il sans penser à se défendre. Le visage de Simone se chiffonne et Eric sent soudain des larmes chaudes lui couler sur les joues. Peut-être parce qu'il a arrêté tous les cachets, qu'il n'a plus de protection intérieure, qu'il est sans défense, à vif.
« Tout ce temps, » poursuit-il les lèvres tremblantes. « Je n'ai pensé qu'à une seule chose. Il ne peut pas être mort. »
Ils restent complètement immobiles, enlacés. La neige tombe sur eux à gros flocons duveteux. Un avion gris et brillant décolle loin dans un grondement sourd. Quand Yona frappe à la vitre de la terrasse, il tressaille. Eric ouvre et Yona sort. Il se racle la gorge.
« Je pensais que vous deviez savoir que nous avons identifié le corps retrouvé à côté de la maison de Lydia. C'était qui ? Ce n'était pas l'enfant de Lydia. C'était un garçon qui a disparu il y a 13 ans. »
Eric acquiesce et attend. Yona soupire lourdement.
« Des restes d'excréments et d'urine montrent que... »
Il secoue la tête.
« Montre que l'enfant y a vécu assez longtemps, probablement pendant 3 ans avant qu'on lui ôte la vie. »
Silence. La neige continue de tomber dans l'obscurité au-dessus de leur tête. Les avions rugissent au loin en montant vers le ciel.
« Autrement dit, vous aviez raison, Eric. Lydia gardait en cage un enfant qu'elle considérait comme le sien. »
« Oui, » répond Eric d'une voix à peine audible.
« Elle a tué le garçon en comprenant ce qu'elle avait raconté sous hypnose, ce que ça impliquait, ce que ça impliquerait.
« Je croyais vraiment m'être trompé. Je l'avais accepté, » dit Eric avec lassitude, les yeux tournés vers la piste d'atterrissage enneigée.
« C'est pour ça que vous avez arrêté ?» demande Yona.
« Oui. »
Vous avez cru que vous vous étiez trompé et vous avez fait la promesse de ne plus jamais hypnotiser,
dit Yona. Simone se caresse le front d'une main tremblante.
Lydia t'a retrouvé quand tu as rompu ta promesse. Elle a découvert Benjamin,
dit-elle tout bas.
Non, elle devait nous suivre depuis le début,
chuchote Eric.
Lydia est sortie du Rocker il y a 2 mois,
dit Yona.
Elle s'est rapprochée de Benjamin progressivement. Votre promesse de ne plus jamais hypnotiser la retenait peut-être.
Lydia considérait Joachim Samuelson comme responsable de l'avortement qui avait provoqué sa stérilité au foyer, se dit Yona. Raison pour laquelle elle lui avait enlevé son fils, Johan. Ensuite, Lydia considéra que l'hypnose d'Eric l'avait obligée à tuer Johan. Elle avait donc enlevé Benjamin quand Eric avait repris l'hypnose. Le visage d'Eric est très grave. Dur, fermé. Il ouvre la bouche pour expliquer qu'il a sans doute sauvé la vie d'Evelyne en rompant sa promesse. Mais il y renonce quand un agent de police vient les rejoindre.
« Il faut qu'on y aille, » dit l'homme brièvement. « L'avion décolle dans 10 minutes. »«
Est-ce que tu as parlé avec la police de Dorothea ?»
demande Yona.
« Impossible d'entrer en contact avec la patrouille qui s'est rendue à la maison, » répond le policier.
« Pourquoi ?»«
Je ne sais pas. » Mais ils disent qu'ils essayent depuis 50 minutes.
« Mais merde, il faut qu'ils envoient des renforts !»
dit Yona.
« C'est ce que j'ai dit, mais ils préfèrent attendre. »
Ils commencent à parcourir la petite distance jusqu'à l'avion qui les attend pour les amener en Laponie du Sud à l'aéroport de Vilhelmina. Eric ressent subitement un bref et singulier soulagement. Tout ce temps, il avait eu raison. Il lève le visage vers la neige qui tombe. Elle tourbillonne, tournoie. Légère et lourde à la fois. Simone se retourne et lui prend la main.